BW. Vue d'Allemagne.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung.
3 octobre 1990, il y a 28 ans, cette semaine, le présentateur du journal télévisé allemand annonce la réunification du pays. Le mur de Berlin est tombé. Un an plus tôt, l'ancienne partie du pays administrée par le régime communiste, la RDA, est rattachée à la République fédérale. L'Allemagne s'enrichit de 5 nouvelles régions et redevient un pays à 16 Länder. Le 3 octobre est resté depuis fête nationale en Allemagne, jour férié dans tout le pays. Mais 28 ans après cette réunification, alors qu'on entend l'hymne national derrière moi et un peu partout dans le pays cette semaine, les conditions de vie des 83 millions d'habitants sont loin d'être les mêmes à l'est et à l'ouest, au point que le gouvernement a décidé d'agir. On en parle dans un instant. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, direction le Liban, où les écoles des enfants réfugiés palestiniens sont menacées. On manque d'argent et ce sont des avenirs qui sont en danger. Vue d'Allemagne sur la DW, c'est avec Hugo Flotatalon cette semaine. Willkommen, bonjour et bienvenue à tous. Ce début de mois d'octobre est donc toujours un peu particulier en Allemagne, pas seulement parce qu'on ressort manteau, gants ou même parfois écharpe pour échapper au froid, mais parce que le 3 octobre marque la fête nationale. À cette occasion, un rapport est publié chaque année par le gouvernement sur l'état du pays depuis la réunification. Rapport présenté il y a quelques jours à peine par Christian Hirte, le représentant du gouvernement fédéral pour les nouveaux Bundesländer. Ces nouveaux Bundesländer, c'est ceux de l'Est qui étaient sous le régime communiste, donc avant la réunification de 1990. Et Christian Hirte, il y a quelques jours, a fait le point sur l'égalité, justement, entre ces nouvelles régions et le reste de l'Allemagne. Deux mondes qui étaient radicalement différents de par le système économique, la culture ou encore l'éducation jusqu'en 1990 et que l'on tente depuis d'unifier.
Globalement, nous avons plus raison d'être fiers que de raison d'être sceptiques. Le rapport de cette année montre que le nivellement des niveaux de vie a déjà bien progressé.
Globalement, pas mal, mais peut mieux faire donc. C'est ce que disait d'ailleurs Angela Merkel aussi la semaine dernière dans un podcast, parce que oui, la chancelière allemande fait des podcasts. Ces inégalités entre l'Est et l'Ouest ne sont pas nouvelles. On en parlait dans Vue d'Allemagne tout récemment. Ce sont des salaires plus bas à l'Est, un tissu économique différent, une population plus vieille, des niveaux de retraite aussi plus bas à l'Est. Il faut une réelle volonté politique de changer ça, nous disait une députée de la région de Saxe, invitée en août dernier dans ce magazine. Eh bien, il semble que le gouvernement veuille désormais prendre le taureau par les cornes, comme on dit, s'attaquer au problème et le régler pour de bon. Une commission vient d'être créée à cet effet. Der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, la commission des conditions de vie équivalentes. Les élus ont jusqu'à juillet 2019 pour faire des propositions concrètes pour tendre vers plus d'égalité dans tout le pays, de l'Est à l'Ouest, mais aussi du Nord au Sud. Ils seront aidés d'acteurs économiques ou de la société civile dans leur travail. Une commission à qui le gouvernement a fixé 6 axes précis, dont la chancelière et ses ministres ont d'ailleurs promis dans leur contrat de coalition d'en faire des priorités de leur politique. Écoutez Angela Merkel à ce sujet.
Concrètement, nous savons que nous vivons des situations très différentes selon les régions. Il y a des villes d'où beaucoup de gens sont partis, des quartiers où les infrastructures ne sont plus utilisées, où presque aucun moyen de transport public n'est disponible, où des magasins et des appartements sont vides. De l'autre côté, il existe des lieux de vie très compliqués en termes de logement avec des loyers très très élevés. Et puis nous avons des zones rurales où les gens ont peur en vieillissant de ne plus avoir leur propre voiture indispensable pour aller en ville parce que le médecin n'est pas tout proche. Ces craintes et ces préoccupations très différentes dans les zones urbaines et les zones rurales, nous voulons les prendre en considération et essayer de créer des conditions de vie équivalentes. Cela signifie investir dans les infrastructures des zones rurales. Cela signifie qu'il faut construire plus d'appartements et créer des installations pour les locataires dans les centres urbains sous tension.
Mehr Wohnungen bauen und Erleichterungen für Mieter schaffen in den angespannten Ballungszentren.
On entend là qu'Angela Merkel veut des progrès pour toute l'Allemagne, pas seulement entre l'Est et l'Ouest, mais aussi entre les villes et les campagnes dans tout le pays. Le gouvernement veut travailler à l'amélioration des transports, par exemple, des transports publics pour que des citadins n'hésitent plus à déménager à la campagne, comme c'est parfois le cas aujourd'hui. Cela vaut aussi pour Internet ou les réseaux de téléphonie mobile. Un entrepreneur n'ira pas s'installer dans un village s'il ne peut communiquer avec ses clients à l'extérieur depuis chez lui. Deux bons axes de travail pour la journaliste allemande Julia Friedrich, spécialisée sur ces questions. Elle s'exprimait chez nos confrères de la radio Deutschlandfunk tout récemment.
Ce sont autant de domaines où on a l'impression qu'en Allemagne, ce ne sont pas les mêmes standards partout. Je trouve qu'il est indispensable que le gouvernement dise « nous avons un seuil de qualité en dessous duquel on ne doit pas descendre ». Par exemple, les transports de proximité. Naturellement, ça ne doit pas être pareil partout, les trains ne doivent pas tous être pareils. Ça peut aussi être ce qu'on appelle des bus citoyens, gérés par des citoyens ou d'autres choses. Mais je trouve vraiment important qu'on dise « ok, on ne descend pas en dessous de ce niveau ».
La commission a aussi pour mission de trouver des solutions au manque de main-d'œuvre qualifiée par endroit dans certaines régions, au manque de médecins ou encore au manque de places en crèche. Mais pour tout ça, il faut donc des idées et de l'argent. Certaines communes sont déjà très endettées en Allemagne, c'est bien le problème. Plus de la moitié ont même augmenté leurs impôts locaux et leurs impôts sur les entreprises, selon une étude récente, face au manque de moyens. Donc, le président du groupement des communes allemandes, Markus Löwe, appelle donc à des allègements de dettes pour certaines municipalités. Il évoque le cas de celles qui ont perdu beaucoup d'argent car de grosses entreprises minières ou des chantiers navals ont fermé.
C'est en quelque sorte un cercle vicieux, souvent lié à des prestations sociales élevées qu'il faut financer. Une fois dans cette situation budgétaire compliquée, il n'y a plus d'entreprises qui viennent s'installer. Vous perdez des emplois. Pour inverser cette spirale négative, pour pouvoir investir à nouveau, pour attirer à nouveau dans ces villes, il est nécessaire de résoudre ce vieux problème d'endettement.
La dette qui est d'ailleurs le premier axe de travail de la commission, 5 autres sont inscrits sur le papier. Économie et innovation, aménagement du territoire, infrastructure, services publics et cohésion sociale. Sur ce dernier point, il y a beaucoup à faire, notamment entre l'Est et l'Ouest, on en parlait. Cette semaine encore, des élus de l'Est ont appelé à plus de respect dans la presse. Les habitants de l'Est subissent des blessures émotionnelles quotidiennes, disait par exemple un élu de gauche. Pourtant, ils ont fait autant que les gens de l'Ouest pour l'unité allemande. Ils travaillent plus et gagnent moins et on les traite encore d'ingrats. Ils n'ont d'ailleurs pas besoin de gratitude, mais de respect, disait Bodo Ramelow, le ministre président du Land de Thuringe. 28 ans après la réunification allemande, Einheit bedeutet noch nicht Gleichheit, l'unité ne signifie pas encore l'égalité. Un chantier qu'Angela Merkel et ses ministres ont inscrit dans les hautes priorités du probable dernier mandat de la chancelière. Véritable défi, l'avenir dira s'il a permis à Angela Merkel de laisser une image positive ou non dans la société allemande. Freiheit, liberté de Marius Müller-Westernhagen, un des chanteurs allemands les plus populaires. Ce live de 1989 que vous entendez se vendra à 1,5 million d'exemplaires en CD. Même si Freiheit, cette chanson, n'était au départ pas destinée à fêter la chute du mur de Berlin et la réunification qui arrivera, la chanson avait été écrite bien avant, mais elle reste encore aujourd'hui un souvenir et un symbole de la réunification de 1990. Vue d'Allemagne sur la Deutsche Welle, deuxième partie de ce magazine qui s'ouvre sur le monde comme nous le faisons régulièrement. Direction le Liban cette semaine dans les écoles où étudient les petits réfugiés palestiniens. Des écoles et des camps où ils sont logés qui sont en danger. Car l'agence pour les réfugiés palestiniens de l'ONU, l'UNRWA, qui finance les services sur place, manque cruellement d'argent. 360 millions de dollars de trou budgétaire depuis l'annonce américaine de mettre un terme à sa contribution. On vous en avait parlé sur cette antenne fin août. Des solutions provisoires ont été trouvées, mais enseignants, médecins, parents d'élèves et écoliers palestiniens au Liban donc vivent dans la peur. cette crainte des 174 000 réfugiés palestiniens au Liban. C'est un reportage dans les camps de réfugiés de Shatila et de Bouchneh Barajni d'Emmanuel Haddad.
Rues étroites, ciel caché par les fils électriques et les photos de martyrs. Nous sommes à Shatila, camp palestinien au sud de Beyrouth. Au bout de l'une des venelles, l'école Ramallah, financée par l'UNRWA. 820 enfants de 6 à 12 ans ont commencé les cours en septembre. Mais pour combien de temps ? Depuis que les États-Unis ont annoncé fin août la fin de leur contribution au budget de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, professeurs et élèves vivent dans l'inconnu et se préparent au pire.
Je m'appelle Sahar Dadoub. Je suis la principale de l'école Ramallah dans le camp palestinien de Shatila. C'est la seule école de Shatila. Elle accueille les enfants palestiniens du camp et depuis 5 ans, l'école accueille également des Palestiniens de Syrie. Avant, tout était assuré aux écoliers, la nourriture, les soins de santé, le petit déjeuner, la cantine, il ne manquait de rien. Peu à peu, ça se réduit. Avant, quels que soient les soins de santé, ils étaient pris en charge à 100%. Désormais, ça dépend du type de maladie, du coût de l'opération et des médicaments. Or, à Shatila, la situation économique est très difficile. La plupart des parents d'élèves ne travaillent pas. Beaucoup d'enfants arrivent sans petit déjeuner. S'ils viennent le ventre vide, ils ont plus de mal à apprendre et leurs résultats s'en ressentent.
Cela fait plusieurs années que les 174 000 réfugiés palestiniens du Liban subissent les conséquences de la baisse du budget de l'UNRWA. Dans le camp de Bouchneh Barajni, qui compte un médecin pour 5 000 habitants, le père d'un enfant malade raconte ses déboires financiers comme un avant-goût de ce qui pourrait arriver si l'UNRWA devait cesser d'exister.
Je m'appelle Hussein El Ali, je suis né dans le camp de réfugiés palestiniens de Bouchneh Barajni en 1968 et j'ai un enfant âgé de 13 ans et qui souffre d'insuffisance rénale. On lui a fait une opération. L'UNRWA n'a pas payé l'opération. Depuis, il a besoin de prendre des médicaments en permanence. En pharmacie, leur coût s'élève à plus de 1 000 $. Je n'arrive pas à les payer, donc je me les procure au marché noir où ils ont une date de péremption dépassée.
Fin septembre, l'UNRWA n'aura plus un sou, y compris pour les écoles et les centres médicaux, a annoncé fin août le porte-parole de l'UNRWA, Chris Gunes. Au Liban, l'agence offre une éducation à 37 000 réfugiés palestiniens du Liban et 5 500 de Syrie. Et malgré la baisse de la prise en charge, 27 000 personnes bénéficient de ces soins de santé. À la fin de la classe d'anglais, Houloud, 9 ans, fait part de ses rêves et de ses craintes pour l'avenir.
Je veux étudier et j'aime apprendre car je veux devenir médecin quand je serai grande. Je ne veux pas que l'école ferme pour pouvoir continuer à étudier. Si on n'apprend pas, on va se retrouver à jouer dans la rue. Et moi, je ne veux pas perdre mon temps dans la rue, je veux grandir et devenir docteur. Si l'UNRWA ferme, mes parents ne pourront pas payer l'école privée.
Interdit par la loi d'occuper un grand nombre d'emplois au Liban, les réfugiés palestiniens dépendent de l'UNRWA pour les soins et l'éducation, mais aussi comme unique source de salaire digne. Derrière chaque employé, explique la directrice de l'école Sahar Dabdoub, plusieurs familles se partagent un même revenu.
Tu sais, l'UNRWA est notre seule chance d'obtenir un travail. Donc, si nous arrêtons, nous sommes responsables de plusieurs familles. Moi, par exemple, je m'occupe de mes parents. Nombreux sont dans mon cas, responsables de famille. Certains payent l'éducation supérieure de leurs enfants, d'autres des frais de santé. Si le salaire cesse d'arriver, c'est toute la vie du foyer qui va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle une mort lente.
Le 27 septembre, une réunion organisée à New York en parallèle à l'Assemblée générale de l'ONU a permis à l'UNRWA de rassembler 118 millions de dollars de promesses de dons. Pierre Krahenbuhl, son directeur, salue une étape significative pour dépasser la pire crise financière jamais vécue par l'UNRWA. Reste qu'un déficit de 68 millions de dollars demeure pour finir l'année. Et les solutions pour un financement stable et durable doivent toujours être décidées.
Emmanuel Haddad depuis le Liban pour la Deutsche Welle et notre correspondant évoquait ces 118 millions de dollars de promesses de dons récentes pour les écoles et les services sur place. Donc sachez que l'Allemagne et plusieurs autres pays de l'Union européenne font partie des donateurs. Vue d'Allemagne se termine pour aujourd'hui en cette semaine de fête nationale à Berlin et dans tout le pays. Merci à mes confrères des médias publics allemands ARD et Deutschlandfunk dans la préparation de cette émission. Merci à Emmanuel Haddad aussi au Liban et à nos techniciens ici en Allemagne. Et puis merci à vous surtout de nous avoir suivis. Vous retrouverez Anne Letouzé la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Vue d'Allemagne. Et d'ici là, alles Gute, tout de bon, comme on dit ici. À la semaine prochaine, portez-vous bien, tschüss. Ist das einzige, was zählt?